Des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Clotilde Seille au micro de Canal M et à l'émission des livres plein les oreilles. Une fois de plus, si vous nous écoutez aujourd'hui, c'est que nous sommes le mercredi 6 janvier 2016. Toutefois, je ne vous mens pas, nous avons enregistré cette émission-là il y a quelques semaines alors que nous étions encore en 2015. Je précise cela parce qu'on est encore en plein pendant la COP21 à Paris et qu'il sera question justement à l'émission de David Suzuki. C'est pour ça que je le précise, parce que quand bien même on dirait, on pourrait aller faire semblant, puis on pourrait dire alors qu'a eu lieu il y a 3 semaines. Non, on ne fera pas semblant. C'est la COP21 encore en ce moment à Paris et Suzanne Vida qui va nous parler de la biographie, de l'autobiographie de David Suzuki qui s'appelle Ma vie. Également à l'émission aujourd'hui, je reçois Jacques Tremblay qui est un lecteur que vous connaissez bien chez Vues et Voix. Je pense qu'il a été celui qui a été le plus invité des bénévoles à cette émission-là. Je l'accueille à nouveau avec plaisir.
Bonjour
et
Clotilde.
Bonjour mon ami Jacques. Et aujourd'hui, je suis très 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 heureuse, flattée aussi, d'avoir à cette table dans ce studio Monique Proulx.
Ben, je vous dis bonjour et c'est moi qui suis flattée.
Ben, merci beaucoup Monique Proulx qui viendra bien sûr nous parler de ce livre dont tout le monde parle, Ce qu'il reste de moi. Bonjour Suzanne.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, merci.
Vous me faites toujours penser à Laure Varidel. Vous savez, qui a une petite voix comme ça.
Oui,
on vous le dit souvent. Hein.
Souvent.
C'est tellement charmant.
On a toujours des télémarketing qui appelle chez moi, qui demande de parler à ma mère ou mon père. C'est pas drôle.
Ben, non, c'est pas drôle, mais vous voulez que je vous rassure? Moi, quand oui. Il m'arrive parfois, on me téléphone au télémarketing, puis on me dit « Ah, bonjour monsieur, est-ce que madame est là ?» Alors, est-ce que ça vous rassure?
Ah bon?
Ben, oui, ça m'arrive moins au Québec qu'en France, mais ça m'est arrivé beaucoup. Suzanne, comme je le disais, au moment où nous enregistrons cette émission, c'est encore à Paris, il y a encore la COP21 dont nous attendons beaucoup, peut-être même trop, je ne sais pas. Je ne m'avancerai pas sur ce sujet-là, mais vous aviez envie aujourd'hui, et je trouvais ça de bonne guerre, de nous parler de la biographie de David Suzuki, qui s'appelle simplement « Ma vie
». Oui, exactement. Ce n'est pas sa première autobiographie que j'ai lue. Une première a été rédigée il y a très très longtemps, donc il était plus jeune, mais celle-ci, c'est la plus récente, et donc il jette un coup d'œil sur sa vie à l'âge qu'il a actuellement. Mais il revient sur plusieurs aspects que j'ai déjà pris connaissance dans la première autobiographie. Surtout, l'influence de son père sur sa carrière, sur sa compréhension de la nature, aussi les événements malheureuses que sa famille ont dû vivre dans les camps de concentration en Colombie-Britannique, les Japonais à ce moment-là. Mais il y a des nouvelles notions. Il parle beaucoup de l'environnement, justement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas laisser trop de dégâts sur notre planète avec les années qui viennent. Je trouve que c'est un livre qui touche plusieurs sujets, dans sa propre vie.
Oui, et il dit que ce sont comme des lettres à ses petits-enfants
qu'il laisse. Il est très proche de ses enfants et de ses petits-enfants, oui.
Parce que tout le monde s'est très étonné, du moins dans ce que j'ai lu, que ce livre-là soit aussi personnel.
Très personnel.
Vous aussi?
Mais c'est son style de rédaction aussi.
Oui.
Il a beaucoup d'expérience dans le domaine du journalisme, donc je pense qu'il sait quel ton prendre quand il veut faire nous toucher profondément avec son message. Oui.
Alors on le suit quoi depuis sa plus tendre enfance?
Pardon?
Et tu as dit on le suit depuis sa plus tendre enfance?
Non, on suit plutôt, on dirait, les dernières années les dernières décennies de sa vie, mais il y a quand même
comme des petits retours en arrière.
Retour à son enfance. C'est oui, ça. Oui, sa famille, l'importance de la famille également. Oui.
Alors, on le suit en voyage aussi, parce qu'on le suit au travers ses multiples rencontres hein, avec, entre guillemets, les grands de ce monde, ou en tout cas des gens importants à ses yeux.
Exactement. Les personnes qui ont influencé sa vie, le message qu'il désire laisser à ses petits-enfants. Je crois que c'est une personne, moi ce que j'ai tiré de ce livre-là, c'est une personne qui est vouée à l'humanité. Vouée à l'humanité, puis c'est une valeur qui désire passer aux plus jeunes générations.
Et je suis contente que vous nous disiez ça. J'ai jeté un petit coup d'œil à Monique Proulx et qui a dû comprendre pourquoi je la regardais, parce que son livre est rempli de cela, de gens qui se vouent comme ça aux autres, à l'humanité.
Je me disais d'ailleurs justement que ça devrait être la norme. On devrait tous être voués à l'humanité.
Oui.
Bon.
Oui. Non, mais c'est un excellent commentaire, mais malheureusement. Mais quoi qu'on en reparlera tantôt avec Monique Proulx, mais il y a peut-être plus d'amour que ce qu'on pense. On parle souvent de haine, mais il y a aussi beaucoup d'amour, je pense, non?
Tout à fait.
Et au niveau de... Est-ce que c'est vraiment lui qui l'a écrit? Donc, évidemment, c'est vraiment une autobiographie. Il s'exprime en anglais, Monsieur Suzuki?
En anglais, mais ça a été traduit.
Oui, la traduction?
Oui. La traduction est pas mal, elle est quand même très bonne. Je ne crois pas d'avoir mal compris quoi que ce soit. Le message est quand même toujours fort. Et son humanité traduit aussi, c'est ça. Ça se traduit très bien, son humanité.
Alors lui, il se considère comme l'aîné. Hein, il dit, moi, maintenant, je suis vraiment l'aîné, je suis celui qu'il faut qu'on écoute. Hein, parce qu'on lui a demandé, à un moment donné, dans une entrevue, on lui a dit, beaucoup des problèmes environnementaux que vous et plusieurs autres déplorez remontent aux générations précédentes, dont les aînés actuels. Pourquoi pensez-vous qu'il faut se tourner vers eux? Est-ce que vous vous souvenez ce qu'il répond?
Je ne me souviens pas précisément qu'est-ce qu'il répond, mais il y a une chose, c'est certain, ce que j'ai vu dans le livre, c'est qu'il a envie de partager sa sagesse. Je ne vois pas, c'est pas un documentaire style journalistique, c'est pas du tout, c'est vraiment un ton de voix assez personnel, très très clair, très concis. Rempli de sagesse. On sait que David Suzuki, c'est une personne d'un intellectuel très développé. Les connaissances qu'il a appropriées avec les années dans son travail, dans ses œuvres. Mais on dirait vraiment que c'est comme un grand-père, quelqu'un de sage qui nous parle.
Jacques Tremblay, qui est le sage de l'équipe aujourd'hui, vous vouliez intervenir,
J'ai entendu tantôt qu'une partie du livre consiste à décrire ou à évoquer les rencontres qu'il a eues avec des grands ou des gens de ce monde. Est-ce que parmi ces gens-là ou ces grands-là, il y en a qui l'ont particulièrement impressionné, qui seraient pour lui des modèles ou qui seraient pour lui... des références.
Vous avez entendu la question, Suzanne?
Oui, j'ai entendu la question. Ma mémoire, elle est un peu...
défaillante. Il me semble qu'il a été très... Oui, mais c'est ça, c'est exactement lui. Il a rencontré, entre autres, le Dalai Lama. Lui, je pense qu'il a fait partie.
Oui.
Et puis, il y avait aussi un chef, comment il s'appelle? Kayapo Payakan. Je ne sais pas qui était cette personnalité-là. Je ne sais pas, Jacques, ça vous dit... Monique, ça vous dit rien
ça
non plus.
Ça me dit quelque chose.
Nous les suivons dans les rencontres. Rencontre avec les rangs du chef, c'est ça, Kayapo Payakan, au Dalai Lama. Est-ce qu'on parle d'un... Bon, on parle d'un chef, un chef, un chef, un chef, un chef.
Bref, c'est des gens qui ont effectivement symbolisé l'amour de l'humanité dont on parlait.
Toujours.
Tantôt.
Quoi qu'il arrive, je pense que pour lui, c'est un...
Il n'a pas parlé de Stephen Harper, si
non,
je comprends bien.
Non. Et on
y
va.
Plus personne qui en parle.
Non, de toute façon. Qui? Mais par contre, je sais qu'il consacre un grand chapitre au racisme, à l'intolérance aussi.
Et puis,
à un moment donné, on lui demande aussi, et là aussi, je vais me retourner faire un clin d'œil à Monique Proulx, que pensez-vous de tout le foin qui entoure le niqab présentement? Et là, il répond, mais c'est une question tellement secondaire. Vous avez répondu, Monique,
oui, absolument.
À peu près la
c'est
même
l'anecdote.
Chose.
L'anecdote, on s'accroche toujours dans des anecdotes.
Voilà, hein, vous répondez, je trouvais que la charte ramait fort dans une direction anecdotique. Je me suis dit, ah, ils sont... Est-ce que vous avez déjà rencontré David Suzuki, Monique?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Et il me semble que je l'ai rencontré, même si je ne l'ai pas rencontré, tellement il est une figure familière dans mon monde, je dirais.
Oui, c'est ça, exactement. Puis alors, vous pensez tellement, mais tellement la même chose. Suzanne, vous êtes toujours là?
Je suis toujours là.
Ce sera avec beaucoup de plaisir que je vais vous retrouver la semaine prochaine. Vous, qui faites partie de ces gens dont on dit que ça les rend plus brillants dès l'instant qu'ils ont lu tel ou tel livre, et notamment le livre de M. Charles Darwin, dont vous allez nous parler la semaine prochaine sur l'origine des espèces. Rien de moins. Et vous l'avez vraiment lu, de A jusqu'à Z.
A jusqu'à Z. Quand j'ai fait mes études à l'université, bon, il y avait toujours des chapitres qui nous ont été assignés comme lecture obligatoire par les professeurs, mais j'avais jamais lu le livre en entier. J'ai toujours lu les pages, certaines pages, certains chapitres pour des fins académiques.
Bon.
Mais là, j'ai décidé de le lire au complet.
Alors, je compte sur vous pour prendre des notes.
Oui.
Et pour venir nous en parler la semaine prochaine avec grand plaisir.
Merci beaucoup.
En attendant.
Avec grand plaisir, j'y serai.
Merci. Puis je vous souhaite une très belle fin de journée.
Pareillement, merci.
Au revoir, Suzanne.
Au revoir.
Alors voilà, ce livre, je l'ai entre les mains et j'ai la chance d'avoir son auteur juste à côté de moi, Monique Proulx, bonjour.
Bonjour, Clotilde.
Ce qu'il reste de moi, hein, c'est le titre de ce livre et j'ai lu énormément avant de vous rencontrer, bon, non seulement le bouquin mais tout ce qu'on en disait. Je n'ai rien lu, mais rien qui soit ou négatif ou « Ah, c'est dommage, il y a eu ». Tout le monde adore ce bouquin. On doit être fier quand on... Puis remarquez, c'était déjà vrai pour vos anciens bouquins. J'ai pas rencontré beaucoup de gens qui n'aimaient pas Champagne ou qui n'aimaient pas...
Le fait est que je livre très peu de livres, voilà. Donc je livre pas des premières versions. Alors, disons qu'on pourrait quand même... comment dire, être en désaccord avec mes univers ou moins vibrer, ce que je comprends très bien. D'ailleurs, je vends pas 100 000 exemplaires de livres, donc il y a des gens qui sont moins intéressés par mes univers que d'autres. Mais les lecteurs que j'ai habituellement me suivent presque inconditionnellement parce que je les habitue à une certaine exigence, disons.
Oui. Alors, on commence par où? Parce que c'est
moi-même, vous savez,
c'est parce que c'est, honnêtement, je me disais bon, je vais passer directement à la seconde question parce que la première, non, mais dans le sens que c'est tellement dense dans ces bon. Moi, je me dis que le personnage principal, ça reste Montréal.
Oui, absolument, vous avez raison. Et d'ailleurs, ce livre-là, c'est peut-être le premier livre. Je m'aperçois que c'est le premier livre dont je ne parle jamais de la même façon. Impossible d'avoir de cassette pour parler de ce livre-là, tellement il y a de strates possibles,
de points de vue et de
dimensions. C'est passionnant parce que j'ai vraiment l'impression d'être toujours dans une sorte de fraîcheur quand j'en parle.
Et c'est très agréable aussi. Alors, ce livre-là, donc, on est à Montréal. On va à la rencontre de personnalités multiples, diverses, qui ont toutes une chose en commun, c'est un rapport à Dieu, quel que soit le Dieu. Donc, Dieu est un autre personnage.
Un rapport à l'absolu, disons,
à la
transcendance.
À la transcendance.
Un rapport à la transcendance. Mais c'est dans le fond, Montréal m'intéresse depuis un bon moment.
Vous êtes née à Québec quand même.
Je suis née à Québec, c'est pour ça que Montréal m'intéresse probablement parce que je continue de voir Montréal comme une touriste, c'est-à-dire comme un univers nouveau qui me surprend, qui m'irrite souvent, mais qui continue de me surprendre. J'avais déjà écrit Les Aurores Montréal où Montréal était aussi un personnage. Mais je dirais que dans ce qu'il reste de moi, j'ai essayé de percevoir ce qui rassemblait les habitants de Montréal. Oui. Qu'est-ce que c'est une des communs facteurs ou des communes qualités qui fait que Montréal est Montréal? Et j'en suis arrivée au fait que Montréal est à peu près une des seules villes au monde à avoir connu des débuts aussi incroyables, c'est-à-dire
voilà.
des mystiques, mais c'est pas tellement le côté, mais c'est le côté voué complètement. On parlait de voué à l'humanité, mais c'est un peu ça. Hein. Il y avait une telle grandeur chez les fondateurs de Montréal. Peu importe qu'on croit ou non à Dieu, la question n'est pas là, mais il y avait un tel abandon d'eux-mêmes, tel don, que je me suis dit, ça ne peut pas ne pas avoir laissé quelque chose dans l'ADN de Montréal. Et donc, je suis allée à la recherche des signes de grandeur dans Montréal.
Et notamment, une femme pour qui vous vouez quasiment un culte, c'est Jeanne Mance.
Bien, je suis tombée en amour. C'est pas tant un culte. Je suis vraiment tombée en amour avec ce personnage-là qui m'est apparu soudain comme une femme à la fois ordinaire et sublime. Ah oui. Et je me suis dit, c'est comme une espèce de mère courage qu'on a tous rencontrés. Nos mères ont souvent été des mères courage. J'ai plusieurs personnages dans mon livre qui sont comme des sortes de
miroir, courage,
de miroir de Jeanne Mance,
comme la maman là, de ce fils acidique là, qui
n'a pas de nom, mais qui n'a pas de nom et qui finalement sacrifie son amour, l'amour de son fils au bonheur de son fils. Elle lui donne sa liberté en quelque sorte. Il y a Françoise, la grand-mère qui est quand même assez caustique et assez rugueuse, mais qui a quand même cette espèce de... On sent qu'elle a une démesure. On sent que c'est un personnage qui a une stature. Il y a Virginie Hébert, que j'adore, qui est une ancienne religieuse, mais qui est complètement en guerre contre le Vatican et qui mène une lutte, qui a parti un mouvement qui s'appelle Femme de joie. Pour contrecarrer, pour se moquer de filles de joie, femme de joie, pour montrer que finalement, l'institution religieuse de la chrétienté a complètement évacué tout ce qu'il y avait, la joie qui était la base de la chrétienté, à vrai dire, le message du Christ. Oui. Bon, alors, j'ai ces personnages-là qui s'intéressent à des choses qui n'étaient pas nécessairement ma tasse de thé à moi, mais je suis allée glaner ici et là ce qui me semblait vraiment des morceaux brillants de cette âme-là, qui est moins rare qu'on croit. Hein. Je veux dire, dans le fond, je m'intéressais à des personnages qui sont là et qu'on ne regarde pas, comme par exemple les itinérants. J'aime les itinérants et je dirais même que j'aime que les itinérants existent, même si c'est assez terrible, mais je considère qu'ils ont un rôle social extrêmement important. Ce sont des sentinelles. On a besoin de sentinelles dans la société, on a besoin d'avoir posté ici et là sur la rue des gens qui nous rappellent que l'univers n'est pas égal partout, qui nous oblige à sortir de notre bulle. Oui. Et ils ont cette fonction sociale-là qu'ils n'ont pas vraiment choisie et qu'ils ne désirent pas avoir, mais ils l'ont quand même. Et ils sont là, et ils sont de plus en plus nombreux. Et donc, ce sont pour moi des personnages fabuleux aussi.
Alors, il y a justement ce Charlie Putulik ou Putulik, je ne sais pas comment vous...
Putulik.
C'est ça, Putulik, mais quel personnage incroyable. Oui. Et la première rencontre entre ce Charlie et Putulik, on le rencontre alors que, justement, il y a ce jeune acidique qui sort de la maison. Et alors, lui, il n'a jamais rien vu. Il n'a même jamais regardé quelqu'un dans les yeux. Alors, ça donne lieu à des scènes absolument incroyables où là, il découvre, lui. Et là, il voit ce pauvre Manon qui tend la main. Et l'autre, il lui donne quasiment tout ce qu'il a. Et le Putulik, il dit, mais d'où il sort? Enfin, c'est quoi cet homme-là qu'on voit se balader, entre autres, au son des tam-tams le dimanche? Et là, c'est là que Montréal...
vibre de ces atomes joyeux. Parce que j'avais aussi envie de parler d'événements ou de morceaux de Montréal. Pour moi, les tam-tams, c'est une sorte de cérémonie profane, mais qui est merveilleuse, qui a pour moi encore un côté mystique, cette espèce de dimanche soir. Moi, j'habite tout près de la montagne, donc j'entends vraiment jusqu'à 10 heures le soir ce cœur. C'est comme un cœur qui bat rythmiquement, et une espèce d'ivresse. Là. Les gens sont comme... Il y a une espèce de folie, une douce folie. J'avais envie de parler de
du hockey?
dit OK, bien sûr, parce que c'est, il n'y a qu'à Montréal, et c'est les Canadiens qui le disent eux-mêmes, il n'y a qu'à Montréal qu'on a des partisans aussi enfiévrés. Et moi, je dis que ça, tout ça relève de du même ADN, de cette espèce de flamme intérieure qui nous fait chercher des combustibles. Et bon, ouais. Tous les combustibles ne se valent pas, mais le hockey en est un aussi. Ouais. Et il y a comme ça, je voulais parler aussi de Montréal Occupy, qui était ce mouvement, oui. Vous savez, il y a quelques années, avant les Carrés Rouges, qui pour moi était... Bon, c'était dans toutes les capitales du monde qu'il y avait ces jeunes gens qui avaient décidé que c'était possible de refaire le monde sous un autre mode qui n'était pas capitaliste. Et moi, j'ai eu beaucoup d'espoir. Je savais que c'était une utopie. Mais c'était, je ne sais pas si vous êtes allé près du Square Victoria où ça avait lieu, et c'était beau à voir. C'était vraiment un campement.
Ça ressemblait à un souk, là, où on pouvait...
Ah oui, absolument. Et il y avait une espèce d'anarchie contrôlée. Il n'y avait pas de directeur.
Non,
tout
c'est ça.
Et de faire rencontrer, justement, l'itinérant inuit, le faire rencontrer ces jeunes gens-là de Montréal Occupy, je trouvais que c'était vraiment une fulgurance dramatique. J'étais très contente d'avoir
flash.
Un beau flash, un très beau flash.
On sent qu'il y a derrière ce livre une recherche assez incroyable. Vous avez dû travailler là-dessus, mais ça ne se peut pas parce que tout est très fouillé. Hein? Aussi bien lorsqu'on remonte à la Nouvelle-France et à l'arrivée des premiers colons. On parle aussi, on évoque, et là je regarde beaucoup Jacques, parce que lui va se ruer sur le bouquin, je le connais.
Je prends votre copie.
non, il faut en acheter.
Ouais, je veux bien, ouais. Non, achète. Il y a lorsque vous évoquez, c'est marrant parce que je pourrais plus emprunter le boulevard de Maisonneuve ou rentrer dans le théâtre de Maisonneuve sans penser à ce que fut vraiment cet homme-là.
Qui était un homme. J'aurais aimé le rencontrer parce qu'on dit en plus qu'il avait beaucoup d'humour. C'était un musicien. Il jouait du luth, Maisonneuve. Ouais. Il y avait une sorte de détachement et de une grandeur par rapport à ce que Québec lui infligeait, le gouvernement de Québec lui infligeait sans arrêt. Les revers que Québec infligeait à la jeune colonie de Montréal. Et il y avait une espèce de détachement. Il semble-t-il qu'il tutoyait les hommes qui étaient sous sa gouverne,
ouais.
Et qu'il leur refilait de la nourriture de sa table et tout ça, et qu'il travaillait avec eux souvent dans les travaux les plus ingrats, tout ça. C'était sûrement un chic type. Ça, c'est...
Ben, écoutez, déjà, pour que Jeanne Mance lui dise « J'ai besoin d'une armée », retourne de l'autre côté, il retourne de l'autre côté, il revient avec un bateau, avec une armée, une centaine d'hommes.
Deux ans plus tard. C'était ça à l'époque. Je me suis régalée, à vrai dire. C'était du travail, mais je me suis régalée dans ces recherches-là parce que le travail, c'était de concentrer tous ces débuts épique de Montréal dans une trentaine de pages, une quarantaine de pages, parce que j'ai comme émaillé, c'est un roman contemporain, mais j'ai émaillé le roman de cette espèce de le souterrain, disons, c'est vraiment les 25 premières années de la colonie. Et donc, je choisissais les moments, je me disais, je voudrais qu'on se rappelle de la chienne pilote, la chienne de Lambert Kloss, qui savait dépister l'ennemi juste à l'odeur. Je voudrais qu'on se rappelle du fait que Jeanne Mance et Maisonneuve ont été congédiés, ont été maltraités à la fin de... On pense toujours que les héros sont bien traités par l'histoire. Eh bien non. Maisonneuve a été congédiée comme un salaud, comme si c'était un incompétent. Jeanne Mance, jusqu'à la fin de ses jours, a été harcelée par le cher Monseigneur de Laval, qui a été canonisé, mais qui, dans le fond, pour lequel j'ai très peu d'estime, et qui l'a traité de voleuse jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'elle avait justement détourné une somme pour sauver la colonie.
C'est ça.
Écoutez, il y a des histoires extraordinaires dans cette histoire-là, dans notre histoire, et je me suis dit, si on pouvait se rappeler ces choses-là, là, ce serait bien, parce qu'on ne sait rien.
Et surtout à une époque où l'histoire sort des écoles. Bon, moi qui suis d'origine française, hein, vous l'entendez, mais ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis là, ça me donne tellement, mais tellement l'envie de retourner dans des livres d'histoire, sauf que je ne suis pas sûre que ce soit aussi bien écrit.
Mais c'était passionnant. Je vous dis, c'est vraiment passionnant à lire. Et c'était passionnant à écrire.
Moi, je me demande, vous qui êtes originaire de Québec,
oui.
Est-ce que vous boudez Québec? Parce que si vous lisez, par exemple, Le rêve de Champlain, qui raconte un peu la naissance de la ville de Québec, il y a aussi là des moments héroïques et
absolument.
Des moments exceptionnels.
Mais Québec, dès le départ, s'est positionné comme un poste marchand. Alors donc, l'argent était tout de suite là, tandis qu'à Montréal, non. C'est ça qui est l'incroyable utopie de Montréal, qu'on appelait d'ailleurs la folle entreprise, parce qu'il prétendait se passer d'argent, imaginez. C'est pour ça que Montréal occupait, pour moi, ça a un certain rapport avec ces débuts-là. Je me dis, toute cette espèce d'illusion, qui n'est pas une illusion finalement, de la folle entreprise, c'était aussi d'écrire ce livre.
Oui, ben c'est, d'ailleurs, écoutez, c'était ma future question. Ça a été votre folle entreprise. D'ailleurs, à un moment donné, vous avez même pensé que c'est le dernier.
Oui, j'ai pensé que c'était le dernier. Là, je commence à revenir, je commence à me dire que non, ce ne sera pas le dernier. Parce qu'il faut dire aussi que ça me semblait tellement une somme, non seulement pour le travail, parce que j'ai toujours travaillé plusieurs années sur chacun des livres que j'ai écrits, mais c'est aussi, je me disais, qu'est-ce qui me reste d'autre à dire? J'ai vraiment l'impression d'avoir mission accomplie. Si je n'avais écrit que ce livre-là, j'ai l'impression que j'aurais fait payer ma part à l'humanité, disons, puisqu'on parlait de rendre à l'humanité ce qui lui revient et défendre l'humanité, se vouer à l'humanité. J'avais l'impression qu'avec ce livre-là, j'avais fait ma part. Et donc,
moi, il me semble que si j'avais lu ce livre-là, il y a un an, 8 mois à peine, là, quand on parlait de ce nouveau pont Champlain, j'aurais créé un truc viral, j'aurais dit le pont Jeanne-Mance.
Ah oui, oui, oui.
Ben oui, mais
non,
oui.
Non, mais Champlain, quand même, c'est lui aussi qui a découvert, qui avait repéré. Oui. Disons, non, Champlain, je l'aime beaucoup. C'est lui aussi qui a, vous savez, c'est lui qui a donné au scorbut le nom Maladie de la Terre. Et il était très, très aimé par les Indiens. Mais là, c'est une autre histoire.
C'est
à Québec.
Je pense que c'est ce qu'on a appris récemment de lui. Son rapport au peuple autochtone, son respect.
Oui, mais moi, je l'avais lu dans Les Relations des Jésuites, parce que Les Relations des Jésuites parlent de toutes ces années-là, là, dans les années 1600. Là, les Amérindiens aimaient vraiment beaucoup Champlain.
Je voudrais lire, parce que le temps file, je voudrais vous lire un très court extrait. C'est le chapitre qui s'appelle Petite puce en page 211. Il y a quelque chose avec les étrangers fraîchement débarqués. Une aura de drame, une séduction. Ils se tiennent dans le vide sur un territoire qui n'existe plus. Ils sont imprévisibles. Ils ne savent rien de ce qu'on attend d'eux. Ils ont le regard des petits-enfants éblouis par tout ce qu'il leur faut apprendre. Ils exhalent un parfum de mystère et d'innocence qu'ils perdront fatalement en s'intégrant aux citoyens inodores. Et je trouve qu'en ces temps où nous accueillons des Syriens, ce livre est incroyable. Enfin, au moment où vous l'avez commencé, ces gens-là n'étaient pas encore sur les routes, ou du moins s'ils y étaient, on le savait moins. C'est un livre qui tombe à pic et qui fait du bien. Voilà ce que je voulais vous dire.
Ah, mais je vous remercie beaucoup.
Mais
c'était déjà... Montréal a toujours été une terre d'accueil. Même dans sa fondation, parce qu'on ne voulait pas faire un poste uniquement francophone, on voulait faire franco-indien. Donc, ça a toujours été une terre d'accueil et j'espère que ça va continuer de l'être longtemps.
Oui, mais vraiment, alors lisez ce livre, vous peut-être qui avez peur, tenez justement, de ces réfugiés qui nous arrivent en ce moment. N'ayez pas peur de l'autre, et puis ouvrons-leur les portes, ouvrons-leur les mains et les portes de notre maison. Merci beaucoup Monique Proulx, je suis très très touchée par votre présence. Je rappelle le titre de votre livre, « Ce qu'il reste de moi ». De vous, il va nous rester beaucoup dans ce studio.
Je vous remercie infiniment, Clotilde.
Monique Proulx a quitté le studio, mais c'est l'émission des livres pleins les oreilles qui se poursuit. C'est pour ce petit air groovy, c'est pour justement accueillir le très groovy Jacques Tremblay.
Bonjour.
Comment ça va, Jacques?
Ça va super bien.
L'homme à la voix d'or qui nous arrive aujourd'hui avec quel livre? Il avait envie de nous parler de quoi, Jacques, aujourd'hui?
Écoutez, ça fait quelques mois que j'ai lu ce livre-là, mais il m'était resté dans la tête parce qu'il m'avait, il avait signifié un bon défi de lecture, d'une part, et il m'avait complètement égaré.
Oh?
C'est un livre qui s'appelle Terminus radieux, écrit par Antoine Volodine, un prix Médicis 2014.
Oui, oui, oui.
Et en lisant autour de ce livre-là et de cet auteur, j'apprends que c'est un petit peu le prototype du chef-d'œuvre post-exotique. Ah oui, me dites-vous, me semble-t-il.
Ben, je le dis pas, mais j'ai les yeux grands comme des billes.
Ben, c'est un mouvement littéraire, okay. Le post-exotisme,
d'accord.
Qui se situe quelque part à mi-chemin entre l'écriture fantastique et l'écriture de science-fiction.
Okay.
Mais qui est en même temps très poétique et très audacieuse. Alors, mm-hmm. C'est dans ce cas-ci, Volodine place quelques personnages russes,
oui.
Dans l'après-deuxième Union soviétique.
D'accord.
Donc, on est quelque part dans un avenir qui est absolument improbable. C'est l'imagination pure du deuxième empire soviétique qui s'est éteint, qui a été. Mm-hmm. Bousculé par les capitalistes et les forces réactionnaires,
oui.
Et quelques personnages qui fuient l'Orbise, qui se trouvait être le nerf ou la capitale de l'ex-Union soviétique, la deuxième, et qui s'enfuient parce qu'ils sont objets de répression, qui s'enfuient dans la taïga, qui est un peu l'équivalent de la Sibérie, dans ce paysage qui est complètement dévasté par des... non pas des bombardements, mais des cataclysmes nucléaires. Donc, il y a eu des centrales nucléaires qui ont explosé, qui ont complètement contaminé l'environnement et qui signifient la dévastation et la mort, ou du moins la désolation. Alors, ce sont des personnages qui sont perdus dans cette taïga et qui vont donc s'égarer dans des forêts, mais être récupérés d'une certaine façon par des gens d'un village qui s'appelle Levanidovo, un village qui aurait survécu quelque part dans ces terres désertiques et habité par des personnages qui ont comme caractéristique d'être éternels parce qu'ils ont comme survécu au cataclysme à cause des réactions nucléaires, à cause de la façon dont leur organisme a réagi au cataclysme nucléaire.
Je commence à mieux comprendre le post-exotisme, là.
Et c'est donc dans cet environnement où on se retrouve avec des personnages de type Staline, parce que ce village de Levanidovo se baptise le Kolkhoz, terminus radieux.
Oui,
okay. Et c'est comme l'aboutissement d'environnement, d'un rêve soviétique achevé. Mais en même temps, c'est invraisemblable de répression, de contrôle. Les personnages sont absolument fabuleux, incroyables. Ah, il s'appelle avec des drôles de noms, Kronauer. Kronauer, c'est celui qui s'évade et qui se perd dans cet univers-là.
OK.
Vassilissa Marajvili, c'est sa compagne. Ilyuchenko, c'est son compagnon. Ils sont trois. Et en début de roman, ils se perdent. Vassilissa Marajvili va mourir.
OK.
Kronauer va essayer de trouver une façon de s'en sortir et il rencontrera la fille de Soloviev, qui est le président du Kolkhoz Terminus Radieux. Il la rencontrera dans une forêt, laquelle, jeune fille, l'amènera chez son père, dans son village. Et là, il sera exposé à toutes sortes d'aberrations. Il sera fait prisonnier. Il sera séduit par les filles de Soloviev, qui est le président du Kolkhoz. Et il connaîtra une dame absolument bizarre qui s'appelle la Mémé Oudgoul.
Ah oui, personnage incroyable.
Personnage incroyable. Mais ce qui m'a frappé dans ce roman-là, c'est d'abord la poésie qu'utilise l'auteur pour décrire cet environnement-là que je vous ai décrit comme infernal, mais en même temps subsiste une certaine végétation, une végétation dont il a la science. Je peux vous donner un exemple de ce qu'il découvre autour de lui lorsqu'il se promène dans cette taïga.
Okay.
Ciel, silence, herbe qui ondule, bruit des herbes, bruit de froissement des herbes. Murmure, et là, écoutez bien la liste des plantes qu'il trouve. Murmure de la mauve-garde, de la chougda, de la marche sept lieues, de l'éperniel, de la vieille captive, de la sacbrille, de la lusmingote, de la vite saignée, de la sainte valiane, de la valiane bec de lièvre, de la sotte fraise, de l'iglitsa, crissement de l'odilie des foins, de la grande odilie, de la grande grille ou calve grillette, sifflement monotone de la caracolère des ruines. Les herbes avaient des couleurs diverses et même chacune avait sa manière à elle de se balancer sous le vent ou de se tordre.
J'ai l'impression que c'était votre exercice de diction que vous nous présentiez en direct.
Lorsqu'on le fait à première vue,
oui, je
ça
sais,
surprend.
C'est quelque chose.
Ah, dans ce sens-là, j'ai trouvé ça excitant de lire ce livre-là parce qu'il y a toutes sortes de choses imprévisibles, très poétiques, un verbe très, très attachant et des personnages aussi très attachants.
Et alors, dites-moi, parce qu'on est convaincu que cet Antoine Volodine alors, est russe, mais il est absolument pas
absolument
russe.
Français.
Il est absolument français.
Absolument français.
Et c'est donc un surnom qu'il a pris, là.
Apparemment, il aurait signé plusieurs titres de plusieurs pseudonymes, et Antoine Volodine serait l'un d'eux. Un autre de ses surnoms serait Kronauer, qui est le nom du héros de ce livre-là.
Quel âge il a, ce type-là?
Il doit avoir dans la cinquantaine.
Dans la cinquantaine,
je dirais.
Parce que ce nom me disait, il me semble, j'ai déjà lu du Volodine, mais je me souvenais plus. Puis là, je sais que j'ai fait une recherche, mais je ne l'ai pas imprimé, mais en tout cas...
Je dirais entre 50 et 60.
Ah bon,
j'ai
finalement?
J'ai entendu l'entrevue. J'ai entendu une entrevue de lui sur YouTube et qu'effectivement, j'encourage les gens à aller écouter où il parle de ce terminus radieux avec un verbe incroyable, beaucoup plus nuancé que le mien. J'essaie quand même de le décrire.
Oui, non, mais...
Dans le fond, ce qu'il recherche, c'est à décrire qu'est-ce que peut être un rêve, un rêve affaissé ou un rêve détruit. Le rêve de l'égalitarisme qui était à la base du soviétisme, si vous voulez, mais qui n'a jamais pu se réaliser parce qu'il y a des personnes, des hommes, il y a l'autoritarisme qui s'installe.
C'est clair qu'on parle d'une métaphore, là.
Et c'est cette recherche-là, dans le fond, qui transpire à travers le roman. Mais des personnages tellement extraordinaires. Parce que ce couple, Soloviev et Mémé Odgoul, ont trois filles qui s'appellent bizarrement Anko Vogulian, Myriam Oumarik et Samia Schmidt. Alors, ces trois personnages très, très différents, très typés. Oui. Une qui est très modeste, très low profile, une autre qui est extravagante et furieuse. Quand, par exemple, Samia Schmidt prend 10 pages. Il prend 10 pages à décrire la colère de Samia Schmidt, qui est la fille de Soloviev, le président du Kolkhoz.
Mais c'est lorsqu'elle, Proust!
Lorsqu'elle apprend que Soloviev essaie de ramener Vassili Lamarashvili, cette femme du début qui meurt, mais lui, il a la capacité de ramener les morts.
Ah bon?
Et lorsque Samia s'aperçoit qu'il veut ramener Vassili Lamarashvili, elle est prise d'une jalousie terrible et pendant 10 pages, elle exprime sa colère. C'est incroyable. J'aurais voulu lire cet extrait, mais ça aurait pris toute l'émission.
Non, mais peut-être. Mais en avez-vous un autre petit extrait très court, très court à nous lire?
Comment la Mémé Oudgoul est devenue éternelle, c'est que dans le fond, elle était une jeune kamikaze à 38 ans, qui au moment où l'Empire commençait à s'effondrer et que dans les villages autour, les gens commençaient à mourir à cause de l'empoisonnement des systèmes nucléaires qui s'effondraient, elle s'était proposée comme bénévole pour aider les gens à sortir de cet enfer.
Okay.
Donc, elle se proposait à aller mourir pour cette cause-là. sauf que c'était très éprouvant et risqué. Là, je lis l'ouvrage qu'elle a fait. Toutefois, au contraire des autres héros, hommes et femmes, qui avaient tous rapidement succombé, elle continuait à vivre. Son organisme avait réagi de façon positive à l'exposition répétée aux matières fissiles. Les rayonnements ionisants avaient détruit toutes les cellules malades ou potentiellement cancéreuses que sa chair pouvait héberger. Certes, la radioactivité l'avait rendue légèrement iridescente dans l'obscurité, mais surtout elle avait stoppé dans ses chairs le processus du vieillissement. Et d'après ce que la Mémé Oudgoul sentait intimement, elle les avait stoppés pour toujours. Ces phénomènes ne présentaient pas que des avantages et en particulier, il l'avait signalé à l'attention des autorités qui lui avaient demandé, non sans dépit, à plusieurs reprises, pour quelles raisons elle ne mourait pas. Le parti avait du mal à accepter qu'elle se refusât à rejoindre dans la tombe ses camarades de liquidation. Une proposition de blâme avait été discutée et même si elle avait été classée sans suite, ayant été jugée absurde et même odieuse, elle figurait désormais dans son dossier et faisait tâche.
Eh oui, mais alors moi, ça, je dis, mais c'est quand même une immense métaphore. Autre temps, évidemment, on est quelque part entre nowhere et nowhere, comme dirait l'autre, mais d'après tout ce que vous me dites, là, il me semble reconnaître dans l'absurdité ou dans l'immensité de certains personnages, ce qu'on a pu connaître en des temps beaucoup plus réels, quoi.
Et ils vivent réaliste. Des choses tellement exceptionnelles, comme Soloviev, un de ses passe-temps préférés, c'est d'enregistrer ses délires. Mais contrairement à la futurologie, au lieu de les enregistrer sur des moyens technologiques avancés, il enregistre ça sur des rouleaux de cire.
Ah,
et la vieille Mémé Oudgoul s'amuse à les écouter de temps en temps. Bon. Et le roman est ponctué de ces grands délires du père Soloviev qui pénètrent les esprits, qui habitent les cœurs, qui rentrent à l'intérieur de chaque personnage de ces filles de Cronauer. Il prend la forme de d'aigle parfois, d'oiseau, etc.
Nous ne vous avons pas enregistré sur de la cire, mais bien sur un ordinateur, et nous aurons la joie d'écouter, de réécouter. Merci Jacques Tremblay. Jacques Tremblay qui était venu nous parler de Terminus radieux d'Antoine Volodine. À bientôt, Jacques.
À bientôt.
Voilà, vous avez peut-être reconnu maintenant ce générique qui nous amène vers la bande-annonce de la semaine prochaine. Alors, on vous le disait, Suzanne Vida sera à nouveau de l'émission pour nous proposer rien que moins que L'origine des espèces de Charles Darwin. La publication de L'origine des espèces en 1859 a marqué une espèce de révolution intellectuelle comparable à celle qui est associée à des noms énormes comme Copernic par exemple ou encore Galilée. Alors en proposant cette théorie de la descendance avec modification et de la sélection naturelle, Darwin à l'époque apportait des réponses aux questions qui préoccupaient les naturalistes. Le caractère radical de ses réponses, aussi bien que les problèmes qu'elles laissaient en suspens, ont alimenté d'emblée polémiques et controverses. Alors de là, ses ajouts et ses digressions, qui au fil de 6 éditions successives, en vinrent à obscurcir un peu le propos initial. Alors je ne sais exactement de quelle époque date la version dont va nous parler Suzanne Vida, mais je peux d'ores et déjà vous dire qu'elle nous en parlera la semaine prochaine. J'ai un tout petit extrait ici. Quiconque croit qu'une forme ancienne a été subitement transformée par une force ou une tendance interne en une autre forme, pourvue d'elle par exemple, est presque forcé d'admettre, contrairement à toute analogie, que beaucoup d'individus ont dû varier simultanément. Or, on ne peut nier que des modifications aussi subites et aussi considérables ne diffèrent complètement de celles que la plupart des espèces paraissent avoir subies. Oui, il faut lire ça doucement, très, très, très doucement, si on veut être sûr de bien tout capter. Et c'est ce qu'elle a fait, Suzanne Vida. Elle l'a lu excessivement doucement pour venir nous en parler la semaine prochaine à Des livres pleins les oreilles. Et puis également, la semaine prochaine, nous allons recevoir une comédienne que je n'ai pas vue depuis très longtemps et que j'aime beaucoup, c'est Suzanne Champagne. Suzanne Champagne qui va venir nous parler du livre d'Haruki Murakami qui s'intitule « Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil ». C'est un livre audio adapté depuis l'an dernier. Un petit résumé ici. À 12 ans, Hajime rencontre Shimamoto-san, sa petite voisine. Alors avec elle, il découvre la musique, les sourires complices, les premiers frissons sensuels, et puis celle-ci déménage, laissant à son ami le goût amer de l'abandon. Et lorsque 30 ans plus tard elle réapparaît, Hajime, rongé par le désir et la nostalgie, est envoûté par cette femme complètement énigmatique, le reflet de ses rêves perdus. Mais sous les traits délicats du visage de Shimamoto-san se cachent en fait la souffrance, la folie et la destruction. Il s'agit donc ici d'un conte moderne dont émane, nous dit-on, un érotisme discret mais obsédant. Ce roman, servi par une écriture d'une formidable densité qui entraîne le lecteur
au cœur des contradictions de héros en quête d'un inaccessible absolu, qui nous sera présenté la semaine prochaine par Suzanne Champagne. Au moment d'enregistrer cette émission, nous sommes en début décembre et il y a un peu plus d'une semaine, on célébrait l'homme qui aurait eu aujourd'hui 100 ans, l'écrivain qui aurait eu aujourd'hui 100 ans, qu'est Yves Thériault. Le nom d'Yves Thériault, évoquez-le devant quiconque, il y a tout de suite évidemment un titre qui vous vient aux lèvres, c'est Agaguk. Ce sera avec Aaron, c'est peut-être ses deux romans les plus connus, hein, mais Thériault, l'écrivain le plus prolifique du Québec, en a publié à la tonne. Non pas seulement des romans, mais des contes aussi, puis du théâtre, des œuvres pour la radio, pour la télévision. De même qu'une quantité d'œuvres de fiction, sous son nom, ou sous un pseudonyme d'ailleurs. Alors on rappelle ici que M. Thériault, Yves Thériault, était né le 27 novembre 1915. Il aurait donc eu 100 ans à la fin de l'année dernière. L'écrivain Gilles Archambault écrit « Il avait une facilité de création étonnante. Il fut un des premiers et des très rares écrivains québécois à vivre de sa plume. À sa mort en 1983, Thériault est célébré comme un père de la littérature québécoise. Il avait 67 ans. » L'écrivain Jacques Ferron disait de son confrère en littérature qu'il était un fabuleux fabulant. Yves Thériault prend la littérature à bras-le-corps, en forcené du métier, dans une sorte d'élan qui fait une large place à une virilité sanctifiée comme une valeur première. Ses personnages, pour se hisser jusqu'à la hauteur de leur créateur, se montrent souvent aussi puissants que sensibles, jusque dans l'expression de leurs instincts et de leurs excès. À l'automne de 1958, Thériault était en lice pour le prix Goncourt, rappelle Victor Lévy-Beaulieu, en entrevue. Yves Thériault, qui aimait rappeler qu'il avait été de tous les métiers, videur dans des boîtes de nuit, camionneur, vendeur de fromage, fonctionnaire, trappeur, il sera aussi annonceur, réalisateur et scripteur à la radio. Alors, vérité ou légende? Eh bien, c'est vrai pour certains, c'est moins vrai pour d'autres, sans être tout à fait faux, commente sa fille Marie-Josée, tout en ajoutant qu'il fut aussi, alors ça c'est assez incroyable, il fut aussi sous le pseudonyme de Jack Benson, un chanteur country très populaire dans les années 30 en Gaspésie, et sous celui de Jack Thériault en Mauricie. Ce même chanteur qui va écrire quelques chansons avec nul autre que Félix Leclerc, alors que celui-ci n'est rien d'autre qu'un annonceur de radio, tout comme lui. Imaginez-vous aussi cette petite anecdote au temps du premier grand salon du Livre de Montréal. Yves Thériault avait proposé à ses admirateurs, dont le sulfureux Léon Z de Patenaude, le projet d'être enfermé dans une cage de verre avec sa dactylo. Le public aurait pu alors l'admirer au travail, lui devenu de la sorte, une sorte d'animal de foire voué au divertissement de la multitude. Ainsi constitué prisonnier de son propre métier, devenu une sorte de corriveau torturé par les mots, il se serait voué à écrire un livre complet le temps de l'événement. Voilà ce qu'il avait proposé, Monsieur Thériault. Et puis, si vous vous demandez, mais quels sont les livres qui sont disponibles en audio adapté, alors ce sont les suivants. Aaron, Agaguk, évidemment. Antoine et sa montagne, Achigny aussi, c'est disponible. Il y a aussi Cap à l'amour, Les contes pour un homme seul, Le dernier havre, Le dompteur d'ours, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore, La fille laide, L'herbe de tendresse, Maïgan, Moi, Pierre Huneau, Œuvre de chair, La passe au crachin, Le rudicoué, Taïaout, le fils d'Agaguk, Tout le monde dehors, ou une des enquêtes sur les libérations conditionnelles, mais aussi Valère et le grand canot, Le vendeur d'étoiles, ou encore Les vendeurs du temple. Voilà, tous ces titres sont signés Yves Thériault, et vous pouvez les retrouver via le service québécois du livre adapté, en passant par BANQ. Faut-il vous rappeler que ce service est gratuit? Thank you. Alors, que serait cette émission sans vous proposer quelques titres en rafale? On va commencer avec un livre que j'ai ici près de moi qui s'appelle « À la vie, à la mer ». C'est une biographie qui a été écrite par Claude André sur Laurence Jalbert. Je vous en parle maintenant parce que je suis très contente que ce livre soit sorti avec une préface de Monique Giroux. Mais je tiens aussi à vous dire que je travaille fort pour accueillir et Laurence Jalbert et Claude André à cette émission des livres pleins les oreilles. Ce sera pour 2016 maintenant. Ben, remarquez, nous y sommes, mais ce sera pour un petit peu plus tard dans le courant de l'année. Alors, je vous rappelle le titre, À la vie, à la mer, Laurence Jalbert. On dit souvent que l'arbre cache la forêt. Eh bien, il en va de même pour les chansons. Car derrière les 12 petits films de quelques minutes qui sont devenus au fil des ans une partie de la bande sonore de votre vie, se tramaient des histoires que j'ai vécues, écrit Laurence Jalbert, ou qui m'ont touchée d'une façon ou d'une autre. Et dans certains cas, cela fut presque troublant, de façon prémonitoire. Explorer leur processus de création, comme on se raconte sur le divan d'un psy, m'a permis de comprendre l'origine de ces chansons et pourquoi je les ai écrites, composées et chantées. En effet, n'oublions pas que Laurence Jalbert n'est pas qu'une interprète, elle est auteur-compositeur. De « Au nom de la raison », ma toute première composition à Berceuse qui relate ma relation avec ma mère en passant par « Rage » où éclatent mes colères sans oublier « Tomber » liée à mon arrivée dans la sphère publique ou « Encore et encore », toujours aussi bouleversante, eh bien, voici 12 chansons qui fouillent autant de thèmes phares de ma vie qui, par leur universalité, sont aussi les vôtres. La mère de mes souvenirs fut parfois houleuse et agitée, grisante et inquiétante, troublante et amusante, mais jamais je ne me suis ennuyée pendant la rédaction de ce livre avec mon ami et complice, l'auteur et journaliste Claude André, qui a recueilli mes propos et m'a poussée dans la confidence, parions qu'il en sera de même pour vous. Alors, on plonge, demande Laurence Jalbert, vous allez peut-être plonger dans ce livre « À la vie, à la mer ». De Christine Brouillet, qui a la plume très, très, très fertile, Madame Brouillet. Vous savez que Louise, son personnage, est une serial killer à 16 heures. Et Louise n'aime rien tant que la douce routine en compagnie de ses chats. Mais lorsqu'elle apprend qu'une menace pèse sur le chic restaurant où elle travaille, son sang ne fait qu'un tour. S'attaquer au parrain d'une dangereuse familia est toujours bien compliqué, mais... Quand une jolie infirmière qui sème la mort sur son passage s'intéresse d'un peu trop près à Guido, le chef de la carte noire, les masques tombent. Résolue à défendre les siens, Louise reprend du service avec la détermination qu'on lui connaît. Je dois avoir le temps, j'ai un petit extrait ici si vous voulez. Il ne pouvait pas mourir d'une banale crise cardiaque ou d'une indigestion le jour de l'assassinat de son père. Pas le 9 août, non. Il saisit un oreiller, il l'appuya de toutes ses forces contre le visage d'Alberto Secato. Celui-ci se débattit avec une vigueur qui surprit son agresseur. Raphaël monta à demi sur le lit pour accentuer sa pression sur sa victime qui continuait à agiter les bras en tous sens en tentant de le repousser, mais de plus en plus faiblement. À aucun moment, Raphaël ne relâcha sa pression sur l'oreiller. Quand il le retira, eh ben... Vous lirez la suite et vous saurez ce qui se passe quand il le retire. C'est en page 152 de « La mort mène le bal » de Christine Brouillet. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Faudrait que je vous l'appelle. Ngozi, c'est N-G-O-Z-I. Et Adichie, Adichie, c'est A-D-I-C-H-I-E. En descendant de l'avion à Lagos, j'ai eu l'impression d'avoir cessé d'être noire. C'est une citation dans ce livre et ça dit tout. Ifemelu quitte le Nigeria pour aller faire ses études à Philadelphie. Elle est jeune, elle est expérimentée. Elle est inexpérimentée. Elle laisse derrière elle son grand amour, Obinze, éternel admirateur de l'Amérique et qui compte bien la rejoindre. Mais comment rester soi lorsqu'on change de continent ? Lorsque soudainement la couleur de votre peau prend un sens et une importance que vous ne lui aviez jamais donnée. C'est terriblement d'actualité, encore là, ce livre qui vient de sortir, livre audio adapté. C'est une grosse brique, c'est une brique de 522 pages. Sur papier, c'est écrit très petit. Alors, à mon avis, des heures et des heures de plaisir à écouter que cette Americana, un roman traduit de l'anglais nigérian, parce que madame ou monsieur, peut-être, permettez-moi d'en douter, je ne connais pas du tout ces prénoms-là et noms-là, vous, j'imagine que vous allez me pardonner, je ne connais pas grand-chose aux prénoms nigérians. Alors sinon, assez rapidement, L'âge de l'espérance, un essai sur le vieillissement de Simone Plourde, ce livre sur le bien vieillir qui nous convie à une réflexion en profondeur, enracinée dans l'expérience de la vie, dans la vaste culture de son auteur. C'est écrit de manière limpide, c'est un livre qui dévoile avec grâce la valeur du temps qui passe. Le vieillissement, c'est une étape à part entière de l'existence, au même titre que la jeunesse et la maturité. Simone Plourde est docteure en philosophie, elle est professeure retraitée de l'Université du Québec à Rimouski et elle a été membre d'un groupe de recherche en éthique de cette université en plus de diriger la revue Éthica. Alors si cet essai sur le vieillissement vous intéresse, ça s'appelle L'âge de l'espérance et c'est très très bon. Enfin, les 6 degrés de liberté de Nicolas Dickner. Oh, je pense que je vais manquer de temps, mes amis. Alors, je vais le garder pour la semaine prochaine. Un excellent livre dont on dit le plus grand bien. Pardon de manquer de temps. C'était Clotilde Seille au micro de Canal M à l'émission Des livres plein les oreilles. Je remercie mes invités. Suzanne Vida, qu'on retrouvera la semaine prochaine. Également le lecteur bénévole Jacques Tremblay et l'auteur Monique Proux qui est venue nous présenter ce livre merveilleux qui est « Ce qu'il reste de moi ». J'étais accompagnée en régie par Jean-Sébastien Laliberté. Je vous souhaite une excellente semaine, surtout de bonnes lectures et à la semaine prochaine. Salut !